Bien, bonsoir et bienvenue à l'Université de tous les savoirs pour cette 631e conférence. Bonsoir aussi à ceux qui nous retrouvent en direct sur Internet, sur le site de Canal U, www.utls.fr, et sur le site du journal Le Monde. En préalable, je demande, comme je le fais chaque soir, à ceux d'entre vous qui ont un téléphone portable, bon, s'ils veulent bien penser à le couper, hein, je veux dire, ça n'empêche pas qu'il y a pratiquement tous les soirs un téléphone qui sonne, mais peut-être qu'il y en aurait plus. Hein. Alors nous, ce soir, c'est une conférence, c'est celle qui aurait dû avoir lieu lundi, la conférence d'Anne Pouliquen sur la construction d'une usine du virtuel au réel. Cette conférence s'inscrit dans le cycle sur les métiers de l'ingénierie industrielle que nous vous proposons en partenariat avec la société Technip. Donc, nous commençons donc lundi et nous terminerons le lundi 15 janvier. La prochaine série des conférences de l'Université de tous les savoirs portera sur l'homme dans les conditions de vie extrêmes et elle aura lieu au mois de juin 2007. Pour ce qui est de nos programmes et des modes de diffusion et d'accès à l'Université de tous les savoirs, vous pouvez prendre les dépliants qui sont à votre disposition sur les tables à l'entrée ou bien je vous renvoie aux indications qui sont données sur le site internet de l'Université de tous les savoirs. Je voudrais remercier, comme je le fais tous les soirs, le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, grâce auquel l'Université de tous les savoirs continue ses activités, nos partenaires médias et l'Université Paris 5 qui nous permet de vous accueillir dans cet amphithéâtre Binet. Donc j'en viens à la présentation, non pas de la conférence, parce que j'en serais bien incapable, mais Madame Pouliquen qui va vous donner la donnée. Le titre de la conférence est « La construction d'une usine, du virtuel au réel ». Anne Pouliquen, née en 1969, est ingénieure de l'École nationale des ponts et chaussées. Elle est directeure du département installation civile, matériel et matériaux chez Technip, où elle coordonne des études avec les différents centres d'opération et d'ingénierie du groupe. Elle a développé ses compétences, notamment dans le domaine des processus de l'ingénierie pétrolière, des interfaces entre les intervenants. Vous avez vu mardi à quel point le chaînage était complexe, et aussi une compétence en matière d'outils de calcul, de conception et de travail à distance entre différents centres du groupe. Donc je laisse la parole à Anne Pouliquen pour une quarantaine ou cinquantaine de minutes, et ensuite je reviendrai ici pour les questions que vous voudrez bien lui poser. Merci.
Merci Monsieur Michaud.
On entend mal ? Elle a eu lieu lundi. Il y a eu. Bah écoutez, c'est assez simple. J'en suis désolé, mais nous avons affaire à des conférenciers qui ont aussi les obligations professionnelles dans un grand groupe d'ingénierie, et il y a eu malheureusement un problème de mission et de déplacement, et c'est pour ça, je suis le premier à le regretter, que nous avons dû intervertir les conférences. Et c'est très regrettable. Cela dit, je vous renvoie à la conférence que vous pouvez trouver sur le site de l'Université de tous les savoirs, pour celle d'aujourd'hui qui a été donnée lundi.
Et j'espère que vous n'êtes pas venu pour rien malgré tout, monsieur. Donc nous aborderons notre sujet suivant trois axes ce soir. Tout d'abord, la modélisation et le virtuel qui nous servent à calculer. Vous savez que les ingénieurs, certainement, aiment beaucoup les calculs. Nous verrons ensuite dans quelle mesure la modélisation nous aide à créer une réalité virtuelle de l'usine grâce à un modèle 3D. Et enfin, en quoi la modélisation nous aide à anticiper les étapes de la construction. Donc en introduction, tout d'abord, quelles sont les données d'entrée lorsque nous signons un contrat. Eh bien, d'un côté, nous avons un site vierge qui nous est confié par le client, donc très souvent situé au Moyen-Orient, mais pas toujours, très souvent désertique, et dans le pire des cas, ces sites se trouvent sans accès, sans route, sans accès portuaire, voire sans eau, sans électricité. Ça, c'est la donnée de base pour le site. De l'autre côté, nous avons donc signé un contrat. Alors un contrat, c'est une grande pile de classeurs, hein, ça remplit une armoire. À l'intérieur de ce contrat, nous avons un planning contractuel. Dans nos métiers, c'est souvent des plannings qui durent de 36 à 42 mois. C'est-à-dire que dans cette période, nous allons devoir construire pour le client une usine qui tourne et qui produit le produit demandé par le client, bien entendu, dans la qualité exigée par le contrat. Donc dès la signature du contrat, c'est une très grosse machine qui se met en branle, qui fait intervenir des centaines de personnes, voire des milliers de personnes si on inclut le chantier. Pas toutes directement impliquées par notre entreprise, bien sûr, mais c'est nous, c'est nos fournisseurs, c'est les entreprises sous-traitantes. Donc vous avez là sur la photo un exemple tout à fait typique de nos sites. Celui-ci est situé au Moyen-Orient. On voit qu'il est en plein désert, hein, donc il n'y a rien autour. Ce site est particulièrement gigantesque, il se compose de 6 à 8 usines. Nous intervenons en ce moment, nous, sur 5 d'entre elles. Vous voyez par exemple qu'il y a des jetées au fond à droite, hein, des accès portuaires, qui ont été réalisés uniquement pour ces usines. Hein. Elles n'étaient pas préexistantes. Ces accès sont nécessaires puisque le transport des hydrocarbures se fait le plus souvent par bateau, hein, par bateau ou pipeline. Le deuxième exemple de site qui nous échoit lors du démarrage du contrat, en voici un, toujours au Moyen-Orient. Donc vous voyez qu'il est très accidenté, c'est en bord de mer toujours, mais il y a des collines, il y a des rochers. Il va falloir commencer par se débarrasser de ces rochers. La première opération va consister à amener des engins de terrassement pour aplanir le site et pouvoir commencer à y travailler. Alors, c'est un défi, hein, parce que 36 mois pour construire une usine, ça fait 3 ans. Nous avons là la même image du site avec l'usine modélisée, donc l'usine future, telle qu'elle sera intégrée sur la côte, ce qui permet aux clients de visualiser dès le départ quelles seront les contraintes d'environnement, les contraintes auxquelles il sera confronté pour faire tourner son usine. Par exemple, il y a une route d'accès, est-ce que ce sera suffisant pour amener tous les matins les ouvriers qui devront travailler sur l'unité. Donc, c'est une façon d'envisager à l'avance les contraintes d'exploitation. Donc sur quoi nous appuyons-nous pour relever ce défi? Alors nous avons tout d'abord, et c'est très important chez nous, les ressources humaines. Nous devons mobiliser des centaines de personnes, hein, pour réaliser les études, mais aussi pour fabriquer et nous fournir les machines qui devront être installées. Et sur les chantiers, on parle de milliers de personnes. Actuellement, sur le plus gros chantier que nous ayons en cours de construction, c'est 20 000 personnes qui travaillent par le biais de nos entreprises. Hein, ce ne sont pas 20 000 personnes de chez nous. 20 000 personnes, c'est une ville, hein, à construire. Donc avant de commencer un chantier, on va commencer par construire la ville temporaire pour loger ces ouvriers. Le deuxième outil sur lequel nous nous appuyons, c'est une organisation de projet dédiée. C'est-à-dire que lorsqu'un contrat est démarré, on monte une équipe entièrement dédiée au projet, qui va être temporaire donc, et qui devra être efficace dès le début. En troisième point, nous nous appuyons également sur des méthodes. Donc les méthodes, c'est la partition de musique qui fait que l'ensemble de ces intervenants travaillera en harmonie et sans perdre de temps. Enfin, quatrièmement, nous disposons d'un planning, donc un planning cette fois détaillé, qui va anticiper le mieux possible toutes les contraintes du projet, par exemple des vacances ou le Ramadan si on construit au Moyen-Orient, eh bien il se passe rien pendant une semaine à la fin du Ramadan, il faut en tenir compte dans un planning, et qui va décrire le plus précisément possible l'enchaînement des tâches. Enfin, et pour venir au sujet de ce soir, nous nous appuyons également sur des outils de calcul, de modélisation, de virtuel, qui vont nous permettre soit d'optimiser notre design, soit d'aller plus vite. Ces outils nous servent pour les calculs, pour la modélisation virtuelle de l'usine, donc la maquette 3D, pour communiquer en réseau, car nos projets se réalisent non pas en un centre, mais en de multiples localisations. Et enfin, les outils vont de modélisation vont nous servir pour anticiper la construction. Alors, pour démarrer avec le calcul, puisque dans l'ordre des choses, dans la chronologie de nos projets, c'est par ça qu'on commence, nous aborderons trois domaines principaux, les procédés, la définition des équipements et le calcul de tuyauterie. Alors, le procédé, qu'est-ce que c'est? Ben, si on imagine qu'une usine, ça ressemble à une très très grosse cuisine, à l'intérieur de laquelle on va chauffer des ingrédients, séparer des ingrédients, mélanger des ingrédients, le procédé peut être considéré comme le chef cuisinier, celui qui connaît la recette, celui qui connaît la qualité des ingrédients à fournir, leur dosage, les temps de cuisson. Donc l'ingénieur procédé écrit la recette. Mais ça ne suffit pas, il faut également définir toutes les casseroles et les gamelles que nous installons. Donc définir des équipements, c'est le rôle des ingénieurs équipements. Et enfin, toutes ces casseroles sont reliées par des tuyauteries entre elles, donc de la plomberie. Il y a beaucoup de plomberie dans nos usines parce que les fluides que nous transportons ne sont pas inoffensifs et donc on ne les fait pas circuler à l'air libre. Donc il y a des tuyauteries partout qui sont soumises à des sollicitations que nous devons également anticiper et passer les lignes au calcul. Donc il faut savoir que sur une usine, sur un projet normal, nous allons utiliser plus de 100 logiciels différents, la plupart des logiciels de calcul. Donc je vais vous faire la grâce de la centaine de logiciels. On en abordera simplement trois principaux. Alors tout d'abord pour le procédé. Donc le procédé, c'est le chef cuistot. C'est l'hydraulicien en fait, thermicien, hydraulicien. Le procédé traduit le besoin du client. Il commence par établir un schéma de procédé qui va définir étape par étape les diverses transformations auxquelles va être soumise le fluide. Par le biais, pour ceci, on est aidé d'outils de simulation qui nous permettent de modéliser en calcul la totalité d'une usine et de déterminer à chaque étape quels sont les bilans d'énergie, les bilans de matière, les pressions, les températures. Bon, ce sont des logiciels connus du commerce. Et comme la taille de nos usines augmente de plus en plus, et leur capacité aussi, les ingénieurs du procédé sont de plus en plus souvent confrontés à des problèmes nouveaux, des appareils, des machines de dimension hors normes, des pressions très fortes, des températures très froides, et pour certains cas critiques de cas qu'on n'a pas encore rencontrés, on va faire une étude plus approfondie d'un appareil particulier ou d'une tuyauterie particulière, afin de valider, par exemple, le comportement d'un fluide à l'intérieur d'un équipement. Donc l'outil utilisé dans ce cas est un outil qui s'appelle la CFD. La CFD, c'est un terme anglais, comme très souvent chez nous, il y a beaucoup de termes anglo-saxons. Donc en anglais, ça signifie Computational Fluid Dynamics. C'est l'étude du comportement dynamique des fluides. Donc on étudie comment un fluide se comporte au cours de son mouvement, au cours de sa transformation. Alors l'origine de la CFD, c'est l'aéronautique. C'est l'étude de l'air, par exemple l'écoulement de l'air autour des avions, ou la Formule 1, l'écoulement de l'air autour des carrosseries. Dans notre cas, nous, ce qui nous intéresse, c'est pas l'écoulement de l'air autour des machines, c'est l'écoulement des fluides à l'intérieur des machines. Alors, dans le cas de l'aéronautique, quand Airbus, par exemple, étudie un avion, ils étudient un avion à la fois, peut-être deux. Nous, on ne va pas étudier de la même façon les centaines d'équipements qui sont présents dans nos usines. On va se limiter à quelques cas critiques. La première étape en CFD consiste à définir la géométrie très fine d'un appareil. On va pour cela utiliser un maillage, donc on va définir l'appareil à l'aide de mailles de différentes formes qui vont s'approcher au plus près de la géométrie de l'appareil. On définit ensuite les conditions aux limites, puis les caractéristiques du fluide d'entrée. Par exemple, si la tubulure là à gauche est la tubulure d'entrée, on a à l'entrée un gaz ou un liquide d'un certain nombre de caractéristiques qu'on va entrer dans le calcul. Donc un petit exemple de modélisation, un cas réel. Nous avons là un exemple qui a une des plus grosses modélisations puisqu'elle a nécessité une semaine rien que pour le maillage de l'appareil. 388 000 mailles, ce qui signifie que le logiciel va effectuer 388 000 calculs à chaque passe. Cet appareil est un cyclone dont la fonction est de séparer dans un fluide liquide ou gazeux les particules qui pourraient y être présentes. Ces particules peuvent en effet gêner les transformations en aval dans l'usine ou encrasser des machines un peu sensibles. Donc on veut séparer les particules du fluide. Vous remarquerez que la tubulure d'entrée du fluide est un peu excentrée par rapport à l'axe de l'appareil, ce qui fait qu'en arrivant à l'intérieur de l'appareil, le fluide va prendre un mouvement circulaire, et ce mouvement circulaire, la rotation plus la vitesse, devrait permettre de faire tomber les particules tout en bas de l'appareil, pendant que le gaz, lui, étant plus léger, devrait sortir en haut par la tubulure supérieure. Donc c'est ce qu'on veut vérifier via la CFD. Donc nous avons là le résultat de la modélisation. Donc on vérifie effectivement que les particules tournent à l'intérieur du cyclone et descendent vers le bas. On n'a donc aucune particule qui ne sort par la tubulure supérieure. On peut en conclure que l'équipement est donc bien conçu. Un autre exemple, cette fois-ci c'est une tuyauterie à l'intérieur de laquelle on veut mélanger deux gaz, un gaz chaud et un gaz froid. On veut savoir à partir de quand les deux gaz vont arriver à une température intermédiaire. Et on veut savoir surtout si on a besoin d'acheter une machine supplémentaire qu'on appelle un mélangeur pour accélérer le mélange des deux gaz, pour accélérer le moment auquel ils vont arriver à la température souhaitée. Eh bien, la modélisation montre qu'on y arrive assez rapidement. Vous avez en rouge les températures les plus élevées, en bleu les plus faibles, et en vert la température intermédiaire. On voit que très très vite après s'être rencontrés, juste après la rencontre des deux tuyaux, le fluide arrive très vite à une couleur verte, donc la température souhaitée, ce qui signifie qu'on peut se passer de l'achat du mélangeur, donc on fait une économie. On peut aussi même gagner un petit peu de longueur de tuyauterie, puisqu'on n'a pas besoin de toute cette longueur pour obtenir le mélange des gaz. Donc on fait une économie, mais on va aussi gagner de l'espace, parce qu'en supprimant quelques longueurs de tuyauterie, on gagne quelques mètres, on gagne de l'espace, et dans nos unités, c'est très important d'optimiser l'espace. Donc voilà pour un exemple sur les procédés. Une fois qu'on a réalisé les calculs de procédés, les procédés transmettent l'information aux gens des équipements, les ingénieurs mécaniciens, qui vont devoir définir les appareils, c'est-à-dire définir leur métallurgie, par exemple, la façon dont on va les souder, définir les différents accessoires internes et surtout garantir que les équipements vont fournir la performance souhaitée par le procédé. En effet, nous devons très très tôt dimensionner et valider les équipements, car ensuite nous devons les acheter, donc consulter des fournisseurs, des fabricants, faire fabriquer l'appareil, le transporter ensuite jusqu'au site, le livrer sur le site et le monter. Après, il devra être raccordé avec les tuyauteries à l'ensemble des autres équipements. Donc c'est donc une phase critique dans nos projets. Donc voilà sur quelle base travaillent les équipements. Les ingénieurs du procédé leur fournissent une fiche descriptive par appareil qui va définir le volume, les fluides, pression, température à l'entrée et la sortie, la présence éventuellement de particules, la densité, un certain nombre de paramètres. À l'aide de ces données d'entrée, les équipements vont à leur tour utiliser un logiciel courant, enfin dans notre métier en tout cas, qu'on peut citer comme MicroProtol. Cet outil va nous permettre d'abord de valider la performance de l'équipement, c'est-à-dire son rendement, et ensuite sa durée de vie. S'il faut que l'équipement tienne 30 ans pendant la durée de vie de l'usine, c'est pas la même chose que s'il doit durer seulement 10 ans. Donc à l'aide de ces outils, on va déjà pouvoir sélectionner les matériaux. Nous avons toute une gamme de matériaux de métallurgie disponibles dans le logiciel. Nous allons également sélectionner le code de calcul. Ces outils permettent de calculer suivant le code américain, le code anglais, le code français, ça dépend des contrats. Une fois qu'on a défini ces paramètres, on peut ensuite lancer le calcul. Par exemple, vérifier si l'appareil est soumis à une forte pression interne, que sa coque va résister, qu'il n'y aura pas rupture. Il faut aussi vérifier l'équipement par rapport aux sollicitations extérieures. le vent apporte des efforts sur un appareil s'il est de grande taille. On peut aussi avoir à faire une vérification au séisme pour les régions où il y a de forts risques sismiques. Il faut également dimensionner les ancrages de l'appareil qui n'est pas simplement posé sur une fondation mais qui est boulonné. Donc cet outil nous permet de faire tout ça. Une fois que c'est modélisé, on peut ensuite extraire de la modélisation des plans et ces plans vont nous permettre de consulter des fournisseurs d'abord et ensuite d'acheter l'équipement. Donc le modèle que vous avez sous les yeux est un échangeur de chaleur. Il est composé de tuyaux, d'une multitude de tuyaux en interne, à l'intérieur desquels circulent deux fluides à des températures différentes, l'un étant censé refroidir l'autre ou inversement. L'appareil en question fait 6 à 7 mètres de long. Il est actuellement en fabrication en France. On peut compter qu'il coûte plusieurs centaines de milliers d'euros. Et sa durée de fabrication, à ma connaissance, est de 8 mois. Donc on voit bien qu'au plus tôt on a défini et acheté les équipements, au mieux on tiendra nos contraintes de délai et de planning sur le projet. Une fois qu'on a calculé et dimensionné les quelques centaines d'équipements de l'unité, il nous faut également vérifier que les tuyauteries n'auront pas de fuite ni de comportement avec perturbation. Nous faisons circuler des produits pas inoffensifs dans nos usines, des produits polluants, éventuellement dangereux car explosifs. Donc les tuyauteries qui les contiennent ne doivent supporter aucune fuite, pas de rupture, pas de dégradation due à la corrosion. Pour ce faire, nous allons vérifier le comportement des tuyauteries vis-à-vis de toutes les sollicitations possibles auxquelles elles pourront être soumises. Une sollicitation, c'est un effort qui va agir sur la tuyauterie. Ça peut être le vent ou le séisme comme sur les équipements. Ça peut être aussi une pression interne très forte. Ça peut être une température très froide qui va tendre à contracter le tuyau, voire une température très élevée qui va plutôt avoir tendance à le dilater. L'ensemble de ces sollicitations doit être envisagé par l'ingénieur. Donc nous avons là un exemple sur un système de tuyauterie composé c'est tout un système qui alimente 7 pompes d'alimentation de chaudière. Donc température très élevée à 148 degrés et nous voulons voir comment se comporte ce système vis-à-vis d'un cas accidentel qui est le coup de bélier, donc une très forte pression qui arrive d'un seul coup à 127 bars. Donc pour ce faire, nous avons là encore des outils dédiés au calcul de tuyauterie. Celui que nous utilisons le plus couramment dans le métier, c'est César. Alors là aussi, dans cet outil, nous allons modéliser une géométrie. Alors avant de modéliser la géométrie, on va d'abord réfléchir sur papier et avec l'expérience, essayer de déterminer quelle forme il va avoir. On a aussi des contraintes d'espace dont il faut tenir compte. On ne peut pas s'étaler comme on veut. Une fois qu'on a défini une géométrie préliminaire, on la modélise dans l'outil. On définit également les conditions aux limites. Est-ce que la tuyauterie à son extrémité est raccordée, est fixe ou est-ce qu'elle peut se déplacer? Et ensuite, on va entrer les contraintes. Quelle est la pression? Quelle est la température du fluide? Une fois le calcul terminé, on vérifie que l'épaisseur de la tuyauterie, que le diamètre sont compatibles avec les sollicitations auxquelles la tuyauterie est soumise. Donc il revient à l'ingénieur d'imaginer tous les cas possibles, et seulement les cas possibles. En effet, si on imagine une combinaison de 4 charges qui ne risque jamais d'arriver, cette combinaison imaginaire peut nous amener à modifier soit un diamètre, soit une épaisseur, à les augmenter, ce qui serait tout à fait non économique. Donc il faut bien faire la liste de tous les 4 charges, sans en oublier, mais sans en ajouter. Donc nous avons là la page d'entrée où on définit les données d'entrée, donc la pression, 127 bars. Et qu'est-ce que nous obtenons en sortie? Alors des listings informatiques de plusieurs pages, donc si vous trouvez une erreur, vous me le dites avant la fin de la présentation. Il revient à nos ingénieurs de vérifier pour chaque cas de charge étudié que les sollicitations résultantes sont compatibles avec ce que peut supporter la tuyauterie. Donc une fois les calculs probants, on peut, ce qui est très important, confirmer le cheminement, la géométrie du système qu'on a imaginé au début et le modéliser dans la maquette. Donc nous avons sur la page suivante, la modélisation du système dans la maquette virtuelle, cette fois, de l'usine. Donc, vous voyez que c'est assez serré, hein, on a jamais beaucoup de place. Nos tuyaux sont un peu tordus dans tous les sens, donc on ne peut pas s'étaler comme on veut. On a quand même des contraintes d'espace assez importantes. Et nous avons le même système, cette fois, actuellement en construction. Donc là, on voit bien que tout est très serré. Alors, une fois que c'est construit, il ne s'agit pas de revenir en disant « je me suis trompé dans mon calcul, je suis désolé, il faut tout casser hein. ». Quand c'est construit, c'est construit. On ne revient pas en arrière. Sur la page suivante, je vous ai mis une structure tout à fait typique de nos unités, pétrochimiques en tout cas. C'est un pipe rack. Là encore, c'est un terme anglais. Un pipe rack est une structure, il n'y a pas d'équivalent français, hein, il n'y a pas de mot français. C'est une structure très très longue constituée de poteaux et de poutres qui nous sert à poser les tuyauteries. Les racks font souvent de très très grandes longueurs. Donc si on voit là sur l'image, nous avons des tuyauteries couleur jaune. Elles sont positionnées et nous avons des sortes de boucles à intervalles réguliers qu'on appelle des lyres de dilatation. Ce sont des tuyauteries soumises à des grandes variations de température. Elles doivent donc pouvoir se dilater. Si on les faisait tout droites, connectées de façon fixe à chaque extrémité, elles chercheraient à se dilater. Ne le pouvant pas, il y aurait rupture. Donc en faisant ces lyres, nous aidons la tuyauterie à se dilater, au moins dans un sens. On peut lui permettre de se dilater en latéral, mais l'empêcher de se soulever, par exemple. Donc voilà pour l'aspect calcul de notre métier. Nous allons maintenant voir la partie graphique et voir comment, avant de construire une usine réelle, on va construire une usine virtuelle. Alors d'abord, je vous parlerai de la nature du modèle 3D, qu'est-ce qu'on met dedans, des différentes utilisations du modèle, et enfin, comment ce modèle 3D nous permet le travail en multicentre, c'est-à-dire en multiples localisations pour un même projet. D'abord, qu'est-ce que c'est qu'un modèle 3D ? Ce n'est pas qu'une image d'architecte, même si je n'ai rien contre les architectes. C'est un reflet de la réalité future, dans le sens où, bien sûr, comme l'image d'architecte, il est dimensionné entièrement à l'échelle, mais pas seulement. C'est aussi un modèle dit intelligent. Alors, c'est pas un modèle qui réfléchit à notre place. Malgré tout, on le dit intelligent parce que tous les éléments qui sont modélisés à l'intérieur ne sont pas des images, mais tous les éléments sont répertoriés dans une base de données commune au projet et qui répertorie tout le matériel qu'on est autorisé à utiliser sur le contrat. On ne peut pas, par exemple, modéliser un tuyau acier qui fait 13 mm de diamètre si ce diamètre n'existe pas. On est obligé d'aller pêcher dans la base de données le matériel du contrat. Ensuite, en cliquant tout simplement sur un tuyau modélisé dans le modèle, on pourra obtenir des informations sur sa longueur, sur son diamètre, son épaisseur, son matériau. C'est en ce sens qu'on dit que le modèle est intelligent. Alors, c'est un modèle qui est très très bien peuplé, puisque 7 disciplines y travaillent en parallèle. Les disciplines chez nous, ce sont les métiers, donc nous avons différents métiers. Le tuyauteur, c'est le plombier qui définit le cheminement des tuyaux. Nous avons également le mécanicien qui va y définir les machines. Nous avons le charpentier qui va définir les structures métalliques. L'électricien qui va établir le cheminement des câbles électriques. L'instrumentiste qui, lui, veut positionner un petit peu partout dans l'usine des capteurs de pression, des thermomètres qui vont permettre aux gens qui sont présents dans la salle de contrôle de l'usine de vérifier tout ce qui se passe dans l'unité pour éventuellement intervenir s'il y a un problème. Nous avons des climaticiens dans le cas où nous avons des locaux fermés qui nécessitent d'être ventilés ou conditionnés. Et nous avons des civilistes, donc les gens qui vont dessiner les structures béton, s'occuper des routes. Donc voilà l'ensemble des métiers qui travaillent en parallèle. Donc sur un projet le plus simple possible, on aurait déjà au moins 7 personnes travaillant dans la même maquette. Alors, comment se passe la mise en œuvre ? Eh bien, on commence pas par tout modéliser en même temps, hein. On essaye d'avoir une approche itérative en partant du plus gros pour modéliser le plus petit. On va commencer par modéliser les plus gros équipements pour être sûr qu'ils ont vraiment de la place. On va ensuite modéliser les plus grosses structures, puis les tuyaux les plus gros, en allant jusqu'aux plus petits tuyaux et en terminant par les petits thermomètres. Donc on procède étape par étape. Donc les modèles 3D, enfin le modèle, les maquettes ne sont pas une nouveauté. Hein. Autrefois, on faisait déjà des maquettes. Je vous ai mis là un exemple d'une maquette qui a peut-être 12 à 15 ans d'âge. On en faisait autrefois déjà sous une forme qui ressemble à du modélisme. On prenait des petits bouts de plastique qu'on collait ensemble et qu'on assemblait. Ça représentait des milliers d'heures hein, sur un contrat. Pour arriver à représenter l'usine à échelle réduite. Ces maquettes nous servaient avec le client à vérifier que l'usine était opérable et que la maintenance pouvait se faire, c'est-à-dire qu'on pouvait aisément circuler autour des appareils, procéder à un changement de pièce ou de moteur quand c'était nécessaire, accéder à une vanne située en hauteur, par exemple. C'est toujours à ça que nous servent les maquettes aujourd'hui, mais également à beaucoup plus de choses. Ces maquettes aujourd'hui sont quasiment abandonnées, hein, c'est pour ça que la photo a l'air un peu ancienne. Donc abandonnées au profit du modèle virtuel dont nous allons voir quelques exemples et tous les éléments qui entrent dans sa composition. L'exemple que nous allons voir, c'est un morceau de plateforme offshore, donc qu'on réalise de la même façon hein, que les projets onshore. Nous avons là l'un des éléments principaux qui est le plancher du pont de la plateforme qui possède plusieurs étages. Modélisé, alors on appelle ça la structure principale puisqu'elle a un rôle structurel, modélisé dans une certaine couleur. Nous avons modélisé le plancher, on ajoute des cloisons, des poteaux qui viennent en soutien des étages supérieurs. Encore la structure principale. Et puis on positionne un petit bonhomme qui va être notre opérateur témoin. Et qu'on va faire se promener à l'intérieur de la maquette pour vérifier justement qu'on peut bien accéder partout où c'est nécessaire. Nous positionnons ensuite ce qu'on appelle la charpente secondaire, qui est d'une couleur différente. Alors, c'est la charpente dite secondaire parce qu'elle n'a pas un rôle structurel pour tenir la structure. Elle a un rôle d'accès. Ce sont des passerelles, des escaliers, des échelles principalement. Modélisées dans une couleur différente parce qu'elles sont modélisées dans des fichiers différents de la structure dite principale. Ce qui veut dire qu'on peut isoler l'une de l'autre si on souhaite, par exemple, connaître le poids des escaliers. On peut tout à fait le connaître en isolant simplement les fichiers dédiés à la structure secondaire. Encore une part de structure principale qui va soutenir l'étage supérieur. Puis, en violet, on positionne la structure qui va servir à soutenir les machines. On positionne le bardage, donc ce local va être fermé. Hein. Puis on positionne les machines. Au passage, on peut vérifier que le petit opérateur peut circuler autour des machines, peut éventuellement procéder au démontage d'une des pièces. On voit apparaître maintenant en rouge la charpente dite tertiaire. Cette charpente a encore un rôle différent des deux premières. Elle est destinée à soutenir les gaines de ventilation, les tuyaux, les chemins de câbles et les câbles qu'on va devoir ajouter à l'intérieur. Donc on positionne ici les tuyaux, donc en jaune. Vous voyez qu'on a énormément de tuyaux sur nos unités. Il y en a vraiment dans tous les sens. Il y a beaucoup de plomberie. Donc ces tuyaux reposent sur la charpente tertiaire en rouge. On ajoute les chemins de câbles. Donc les chemins de câbles, ce sont des goulottes à l'intérieur desquelles on répartit les câbles et qui permettent de les amener d'un point à un autre. Et enfin, en jaune, on ajoute la gaine de ventilation. Donc chaque discipline a une couleur différente. Ça veut dire aussi que chaque discipline travaille dans des fichiers différents, peut travailler isolément des autres, mais comme l'espace est quand même il n'y a pas beaucoup d'espace, chaque discipline doit en permanence contrôler, en appelant les fichiers des autres disciplines, qu'il n'a pas pris un espace qui était déjà occupé par quelqu'un d'autre. Donc ça demande une coordination de tous les instants entre les différents opérateurs des différents métiers. Vous voyez que l'espace est très réduit. Pourquoi on ne prend pas plus de place? Eh bien, si la plateforme était plus large, elle serait aussi beaucoup plus lourde, donc peut-être instable. Elle serait certainement beaucoup plus chère. Donc on est obligé de faire dans un espace réduit. En même temps, il faut garantir qu'on n'aura aucune interférence entre tous ces éléments qui se croisent dans tous les sens. Et enfin, il faut assurer que pour les opérateurs, toutes les opérations de maintenance seront possibles et faisables. Il faut vérifier qu'un opérateur ne se prendra jamais en montant un escalier un tuyau dans la figure et qu'il pourra, en cas de problème ou d'incendie, s'échapper correctement. Donc, grâce à cette modélisation progressive, itérative, chacun voit ce que fait l'autre et se coordonne. On arrive au résultat final. Donc nous avons là la vue de la plateforme complète. Une fois les études achevées, on peut parler là de 20 à 30 000 tonnes en tout, hein, modélisées. Donc ça nous fait des fichiers énormes, des fichiers graphiques énormes. Et à la fin, et même pendant la réalisation du modèle, on peut simplement, en appuyant sur un bouton, et parce que le modèle est intelligent, obtenir le poids de la plateforme, le poids d'un certain type de matériel, des surfaces, des longueurs, qui peuvent ensuite nous être utilisées pour acheter le matériel. On peut également obtenir les plans. Sur la photo suivante, nous avons la maquette, la vraie, celle-là, une fois la construction terminée. Elle est remorquée depuis le chantier naval où elle a été construite, par deux remorqueurs jusqu'à la position finale en pleine mer où elle sera installée. Donc on voit que les pieds de la plateforme sont encore en l'air. Une fois dans sa position finale, les pieds seront glissés vers le bas jusqu'au niveau de fondation sous-marin. Alors quelles sont les diverses utilisations du modèle, mis à part l'image de l'usine? Eh bien, l'un des avantages, c'est que l'ensemble de l'usine est représenté en un seul endroit. Le modèle est commun à toutes les disciplines et il est consultable à tout moment. Il donne également une vision d'ensemble. La deuxième utilisation, c'est qu'il reflète les évolutions des études. Le modèle est remis à jour en permanence. Les dimensions d'équipement peuvent changer, les calculs peuvent modifier un cheminement de tuyauterie, le client lui-même peut demander à avoir des changements. Le modèle nous permet également d'anticiper la construction. En se réunissant autour de la maquette, on peut déterminer où est-ce qu'on va positionner les grues, par exemple. Le modèle facilite aussi les revues d'opérations et de maintenance avec les clients, vérifier qu'on a bien tous les accès nécessaires, vérifier qu'on peut procéder au démontage souhaité. Le modèle possède une fonction d'extraction de plans. En appuyant sur un bouton, bon, c'est schématique, mais on peut obtenir, par exemple, tous les plans de tuyauterie. On peut obtenir tous les plans de charpente métallique qui vont être ensuite utilisés par les entreprises pour construire. Le modèle a aussi la fonction de sortir des listes de matériel pour achat. Il autorise, mais j'y reviendrai, le travail en plusieurs centres. Et enfin, il fournit une aide à la détection des interférences. Donc, la détection des interférences, c'est pas un vain mot, hein, on l'a vu. Dans nos unités, il y a énormément de câbles, de tuyaux, de morceaux de charpente qui se croisent dans tous les sens. Il faut absolument, au stade des études, assurer qu'il y a zéro interférence dans le modèle, parce que s'il restait des interférences au moment de la construction sur le chantier, ce serait très, très cher pour l'entreprise. Donc cette image illustre la vision d'ensemble. C'est le même site que celui qu'on a vu tout au début, où nous avons 6 ou 8 usines en construction. Donc vous voyez par exemple qu'on a des très très grandes longueurs de pipe rack. Sur l'image suivante, une unité, là aussi pour la vision d'ensemble, on peut voir que nos unités sont très compactes. Malgré tout, elles autorisent des espaces suffisants pour laisser passer par exemple les camions de pompiers. Une vue de détail, cette fois, nous avons là un appareil, bon, c'est une pompe. Les pompes laissent échapper de l'huile qu'on récupère via des petits tuyaux qui tombent dans des récupérations. Nous avons ici un tuyau qui tombe bien en face de la récupération prévue, alors que celui d'à côté, visiblement, n'est pas en face. Donc là, c'est un problème, c'est une interférence. Il s'agit de deux opérateurs qui ne se sont pas coordonnés, peut-être. En réunissant les modèles de chacun, on s'aperçoit tout de suite de l'erreur. On peut aisément la rectifier au stade d'étude. Ça coûte 1 heure ou 2 de travail. Alors que sur chantier, si c'était construit de cette façon, il faudrait forcément démonter l'un des deux tuyaux, ce qui coûterait beaucoup plus cher. Ici aussi, nous avons un bel exemple d'interférence. Nous avons là un poteau béton et puis un charpentier qui a positionné son échelle en rouge. et un tuyauteur qui a positionné des tuyaux et des vannes exactement au même endroit. Cet endroit était probablement disponible la veille, il ne l'est plus aujourd'hui. En réunissant leurs deux modèles, les deux opérateurs vont pouvoir se rendre compte qu'il y a un problème, que ça ne peut pas être monté comme ça sur chantier, et donc ils vont rectifier l'erreur immédiatement. Nous avons là un problème qui n'est pas réellement un problème d'interférence, mais plutôt un problème de continuité. Nous avons une tuyauterie d'un certain diamètre, et puis elle continue dans un autre diamètre. Il manque visiblement une pièce entre les deux, peut-être un réducteur. Donc ça, pour éviter ce genre de choses, on fait systématiquement des revues du modèle, c'est-à-dire qu'on prend ligne par ligne tous les tuyaux et on va les examiner sur toute leur longueur pour vérifier qu'il n'y a pas de discontinuité et qu'elles sont bien connectées à chacune de leurs extrémités. Sur l'exemple suivant, il s'agit plutôt d'une revue de maintenance. Nous avons là, on imagine que l'usine est terminée. Nous avons deux bacs de stockage en rouge. À l'intérieur de ces bacs sont installées des pompes et on veut pouvoir, pendant la durée de vie de l'usine, sans arrêter l'usine, extraire les pompes de l'intérieur des bacs. Il va donc falloir amener des grues qui vont soulever ces pompes. Donc il faut vérifier que l'angle des grues ne va pas gêner, ne va pas heurter les structures qui sont positionnées juste en dessous. La revue maquette permet très très facilement, visuellement, c'est tout à fait immédiat, de voir que effectivement, les grues sont compatibles avec l'environnement. Alors, le travail en multicentre, en quoi le modèle nous l'autorise ? Eh bien, il faut savoir que lorsque nous signons un contrat, il ne se réalise pratiquement plus jamais en un seul centre, par exemple à Paris. On a maintenant l'habitude, lorsqu'un contrat démarre, de le partager en plusieurs entités. Par exemple, notre centre de Paris, notre centre de Madras en Inde et notre centre d'Abu Dhabi. Ces trois centres vont travailler en parallèle sur le même modèle. Donc c'est possible grâce d'abord au partage du modèle. On va prendre l'usine, on va la partager en différents morceaux géographiques. Chaque entité va travailler sur une zone géographique et ceci pour toutes les disciplines. Le modèle, pour être sûr d'avoir toujours la référence du voisin, des études qui sont faites dans le centre éloigné, il va être répliqué. Une réplication, c'est une recopie du modèle. Toutes les semaines, le modèle de Madras va être recopié dans le modèle de Paris, de façon à ce que Paris ait la dernière information mise à jour. Ces réplications se font toutes les semaines parce que les fichiers sont très lourds, donc ça prend quand même quelques heures. On fait ça la nuit. C'est possible évidemment parce que nous avons entre les centres du groupe des canaux de communication très performants. D'autre part, si tout le monde intervient sur le modèle, la base de données reste unique. On ne peut pas permettre à l'un ou l'autre de créer des nouveaux éléments dans la base de données qui ne seraient pas autorisés. Afin de faciliter les échanges, on fait des revues. Alors, à Paris, on peut très bien revoir l'évolution du modèle de Madras, ce qui évite donc d'avoir à se déplacer. Et on pratique également beaucoup la vidéoconférence, c'est-à-dire qu'on se rencontre avec nos collègues des autres centres, par la télé, cette fois, et on échange les dernières informations, on parle des problèmes qu'ils rencontrent et on essaye d'apporter des solutions. Enfin, on n'a pas que des maquettes, on travaille aussi avec des plans, il y a toujours des plans. Donc il faut aussi que chacun des centres qui travaille sur la maquette, sur le projet, ait la dernière information disponible en termes de plans, de documentation graphique. Aujourd'hui, tous les plans sont scannés, nous avons toute la documentation disponible en électronique. Toutes ces informations sont classées dans des bases de données qui sont énormes, qui peuvent monter jusqu'à plus de 100 000 documents. Et ces bases documentaires sont également répliquées, tout comme le modèle, et celles-ci sont répliquées toutes les nuits. Grâce à l'ensemble de ces pratiques et de ces outils, on peut travailler de façon à ce que le soleil ne se couche jamais pratiquement sur nos projets. Donc autrefois, il était impossible, évidemment, de travailler de cette façon, quand on avait que le fax, le téléphone ou la poste pour échanger des plans. Donc ces outils ont vraiment permis un grand bond en avant en termes de travail collaboratif avec des centres éloignés. Nous avons là une illustration d'une réplication. Donc mettons qu'à Paris, nous avons travaillé dans le modèle, nous avons dessiné par exemple cette tuyauterie en rouge. Le centre de Madras travaille sur une autre partie du modèle, mais aimerait bien quand même savoir ce qu'il y a dans notre partie à nous. Aujourd'hui, ils n'ont pas l'information, ils n'ont pas le tuyau rouge dans leur, sur leurs écrans. Lors de la réplication, eh bien, c'est tout simplement une recopie des fichiers. Et le lendemain, Madras aura le même modèle que nous. Donc le tuyau rouge est apparu sur leurs écrans. Nous avons là une photo de notre centre de Madras. Donc leur bureau ressemble beaucoup à nos bureaux à Paris. Il faut savoir que nous avons, quand même c'est important, des ordinateurs des mêmes capacités. Nous avons bien entendu les mêmes logiciels et les logiciels dans les mêmes versions. Si ce n'était pas le cas, nous ne pourrions pas procéder à des échanges de fichiers aussi facilement. Donc une fois qu'on a construit la maquette virtuelle, il va quand même falloir construire. En quoi la modélisation va nous aider ? Eh bien, elle va nous aider d'abord pour anticiper les contraintes de délai et de sécurité sur le site. Elle va nous aider également à anticiper tout ce qui est élevage lourd. Donc je vais vous expliquer en quoi cela consiste. Alors pour réussir, c'est très important chez nous, un projet doit être orienté construction. Sur un planning de 36 à 42 mois, c'est le chantier qui couvre la plus grande durée. Tout retard sur chantier est en général irrattrapable. Ceux qui ont fait construire leur pavillon doivent le savoir. Quand l'entreprise vous dit « j'ai 3 jours de retard », elle ne rattrape jamais ces 3 jours de retard. Donc sur nos chantiers, c'est pareil, mais à plus grande échelle. Afin d'éviter tout retard sur chantier, il est important que les gens du projet, des études et de la construction se concertent le plus tôt possible pour savoir comment on va construire et partager la même stratégie. Pour ce faire, on a mis en place des revues de constructibilité. Alors c'est un terme un peu barbare, ça signifie simplement qu'on se réunit dans une salle et qu'on se pose un certain nombre de questions sur la façon dont on va construire. Par exemple, la séquence. La séquence, c'est se demander par quoi on va commencer, par quel ouvrage on va commencer. Parce que si on met la grue à l'endroit où on va faire le premier ouvrage, on risque d'avoir des petits soucis. On va aussi se poser des questions sur la préfabrication. La préfabrication, c'est pour éviter d'avoir à couler en place des structures en béton, ce qui amènerait beaucoup de camions de béton à circuler sur le chantier et qui peut éventuellement provoquer des embouteillages sur le chantier. Donc la préfabrication, ça permet de réaliser dans un atelier qui est isolé du chantier des poutres, des poteaux, de les amener sur site et de les assembler. La préfabrication, ça peut être aussi ce qu'on appelle des modules. Lorsqu'on a une structure métallique importante, on peut imaginer de prémonter, de préassembler un certain nombre de niveaux dans un atelier, chez le charpentier, chez le fabricant, et de les amener ensuite sur le chantier où on n'aura plus qu'à réaliser l'assemblage final. Donc lors des revues de constructibilité, on étudie aussi le positionnement des grues, le diamètre des grues, puisque une grue prend beaucoup de place sur un chantier, donc ça veut dire qu'autour, il faut mettre en sécurité, il ne faut pas qu'on circule en dessous. On va étudier et positionner les moyens de levage, j'y reviendrai. Et enfin, comme le chantier démarre avant que les études ne soient finies pour être sûr de tenir le planning, il est très important que le chantier continue à avoir l'information dans sa dernière mise à jour de manière à bien gérer ses priorités d'abord, de manière à bien être tenu au courant des modifications éventuelles et éventuellement nous alerter si un ouvrage est déjà réalisé et qu'on ne peut plus le modifier. Donc pour être sûr de bien communiquer avec le site, sur tous nos chantiers, on met en place des liaisons Internet haut débit qui sont dédiées. Tous les outils virtuels sont présents sur le chantier, le modèle 3D est présent. Les bases documentaires sont également accessibles en temps réel, ainsi que les bases de gestion du matériel qui nous ont servi pendant les études, qui nous servent pendant les achats et qui servent également au chantier à gérer son stock de matériel, son magasin sur le site. Nous avons là un modèle qui nous a permis de réaliser une revue de constructibilité. Au moment de la revue de constructibilité, en général, le modèle est très peu avancé. C'est assez sommaire, il est moins avancé que sur cette image. Nous avons là, comme exemple, une grande structure, donc toujours un pipe rack sur laquelle on pose les tuyaux et les tuyaux. Donc on va se poser la question, comment construire ce pipe rack ? Va-t-on le faire en structure métallique ? Va-t-on le faire en béton ? Si en béton, couler en place, préfabriqué ? Donc sur l'image suivante, pour ce rack qui fait quand même 30 mètres de haut, c'est un immeuble, On a choisi la préfabrication. Donc nous avons là l'image du rack, les poteaux et les poutres sont assemblés sur le chantier. Viendront s'y poser ensuite sur les quatre niveaux les tuyaux et peut-être sur le niveau supérieur des câbles. Alors, quels sont les avantages d'avoir choisi la préfabrication ? Ça nous évite d'avoir à mettre en place des échafaudages, par exemple. Les échafaudages présentent toujours un certain risque car ils font travailler des gens en hauteur. Ils ont aussi pour inconvénient de demander du temps pour leur montage et leur démontage. Et enfin, ils prennent beaucoup de place autour de la structure. Si on avait un échafaudage positionné tout le long de ce pipe rack, on ne pourrait pas circuler autour. On ne pourrait pas non plus stocker de matériel d'un côté ou de l'autre. Donc c'est l'une des questions qu'on se pose lors des réunions de constructibilité. Comment va-t-on construire ? Et en ce sens, le modèle nous y aide beaucoup. Le deuxième aspect du chantier qu'on doit anticiper très tôt, c'est les levages lourds. Donc il faut savoir que les appareils les plus lourds dans nos unités sont aussi très souvent les plus chers, les plus longs à fabriquer et qu'ils n'existent pas en double. Donc si on casse un appareil par un accident lors d'une opération de levage, par exemple si le crochet de la grue lâche, on est fichu parce que l'appareil doit être recommandé, refabriqué, transporté de nouveau sur le site. Il faudra peut-être 6 mois, peut-être 1 an pour le faire, ce qui veut dire que notre planning ne sera pas tenu et que notre rémunération en souffrira certainement. Donc on définit les levages lourds comme étant les éléments levés d'un poids supérieur à 50 tonnes, dont l'encombrement est supérieur à 12 mètres, éventuellement qui sont situés dans une position particulière, par exemple en hauteur. Pour préparer une opération de levage, il y a plusieurs étapes. On commence par vérifier que le sol va être suffisamment résistant. Pour des appareils très lourds, les grues aussi sont très lourdes, il faut être sûr que le sol va tenir, qu'il n'y aura pas de tassement ou de mouvement du sol qui pourrait mettre en péril l'opération. On réalise ensuite un plan par étape qui permet d'envisager à chaque étape du levage la faisabilité. On va réaliser une note de calcul de la grue, ou plutôt la faire réaliser, pour vérifier que la grue prévue va bien tenir la charge de l'équipement qu'elle doit lever. Et on va même, aujourd'hui c'est ce qu'on fait, utiliser de la modélisation 3D, voire des films, pour prévoir ces opérations de levage. Donc ces opérations sont sous-traitées, hein, nous nous adressons à des entreprises spécialisées pour cela, qui disposent du matériel et des grues nécessaires. L'appareil que vous voyez sur les photos est un compresseur qui est sur cette photo-là encore dans son atelier en Allemagne. Donc vous voyez la taille, hein, l'un de mes collègues mécaniciens pose à côté. Sur la photo suivante, on voit l'appareil, le même compresseur, sur sa fondation dans le site du Moyen-Orient sur lequel il est prévu. Donc ce sont des machines assez fragiles, hein, il s'agit d'opérer en douceur au moment du levage. Donc pour l'élevage, on envisage très souvent une ou deux, voire trois options possibles. Nous avons ici un exemple réel d'une étude de levage pour un de nos chantiers en France. Ça s'est fait l'année dernière. Nous avons un appareil en verre sur le dessin qui s'appelle un réacteur, très très lourd. Hein, il fait 1400 tonnes. Il est très lourd parce que sa coque est très épaisse. Elle fait plus de 26 cm. Il est très lourd et très épais parce qu'il est soumis à des conditions de service très contraignantes, très forte température, 400 degrés, très forte pression, 180 bars. Donc cet appareil, évidemment, doit être levé avec un certain nombre de précautions. On a sur ce dessin un portique métallique temporaire qui est positionné là juste pour le levage, qui va soulever l'appareil par sa tête pendant que la grue sur la gauche va soulever le fond. Donc on réalise une étude, hein. La deuxième option consistait à avoir le même portique, mais le réacteur positionné sur un chariot avec des roues et des vérins qui vont soulever le fond de l'appareil. Donc nous avons là les 6 étapes du levage. Vous voyez par exemple que le portique provisoire est positionné sur une fondation renforcée. On a dû mettre des pieux parce que le terrain à cet endroit n'était pas suffisamment résistant et qu'il y avait risque de mouvement, il y avait risque que l'ensemble s'effondre. Donc sur cette photo, les photos suivantes, nous avons la même opération de levage hein, une fois qu'elle a été réalisée. Vous avez couché là le réacteur, le portique qui va le lever et l'ensemble des vérins qui va le soulever. Voilà le réacteur en position à moitié levée. Donc il est évident par exemple que le crochet auquel est suspendu le réacteur a fait lui aussi l'objet d'un calcul et d'une vérification approfondie. et nous avons, dans sa position finale, le même réacteur posé sur sa fondation. Alors nous avons ce même type d'étude, mais réalisé avec un film, une étude animée. Donc je vous montre là juste des photos, mais en fait c'est un film 3D. Le même principe, hein, un portique provisoire qui va lever le réacteur et qui est positionné juste au-dessus de la structure béton qui va recevoir l'appareil. Donc la poutre centrale du portique commence à soulever le réacteur. Le voilà maintenant positionné verticalement. La poutre va remonter pour l'amener au maximum de hauteur, puis se translater en latéral pour se positionner l'appareil juste au-dessus de la structure. Et ensuite, on descend tout doucement. Hein. Voilà l'appareil positionné. Donc une fois qu'on a terminé de positionner tous les appareils, toutes les machines, qu'on a tout raccordé avec les tuyauteries, qu'on a mis les éclairages, eh bien on peut dire que l'usine est terminée. Nous avons fini notre travail. Il nous reste maintenant à livrer l'usine au client qui pourra lancer le gaz et commencer à opérer et faire tourner son usine en espérant que 20 ou 30 ans après, il viendra nous chercher pour la moderniser. Je vous remercie.
Il y a une question là-haut, non? Non, pour le moment, je ne vois pas. Il y en a une ici, en bas. Attendez, on vous passe un micro. Ici. Ah non, pardon. Mais monsieur d'abord. Bon, enfin, monsieur d'abord. Pardon, merci. Ici.
Voilà. Votre sexe et votre compétence me permettre de poser une question presque journalistique. Combien étiez-vous de filles dans votre promotion des ponts? Combien êtes-vous de femmes ici dans le centre de Paris? Et combien à Madras, où je pense que les ingénieurs sont en majorité indiens?
À l'école, nous étions 8 filles sur 86. Actuellement, je crois qu'à Technip, on est globalement 30%, un peu moins encore dans les départements techniques, mais on veille à augmenter ce pourcentage via nos recrutements. Et dans le centre de Madras, eh bien justement, il ne faut pas croire, mais il y a beaucoup de femmes. Il y a beaucoup de femmes, oui. Les femmes ont accès à l'éducation tout autant que les hommes dans ce pays. Donc je pense que c'est largement, oui, 30%.
Bravo.
En haut. Oui, monsieur.
Merci. Oui, votre usine, si elle se situe dans une zone désertique, j'ai quelques inquiétudes pour elle. Bravo pour tout votre exposé.
On vous entend pas très bien. Hein. Pas bien.
Bravo pour tout votre exposé sur la planification des études, la coordination et tout. Seulement, il y a des impasses. Au début du problème que vous avez traité et à la fin. Tout d'abord, vous avez passé tous les problèmes liés au site, entre autres tous ceux qui se rapportent à son propre choix, aux études, surtout si vous êtes au bord de la mer.
On vous entend pas, hein. Pas du tout. Excusez-moi, mais
vous avez passé tous les problèmes liés au choix du site, aux problèmes liés au jeté maritime, aux problèmes géotechniques et à tout le voisinage de l'usine, c'est-à-dire l'approvisionnement en électricité, en eau, etc. Ça, c'est pour ce qui est amont de votre exposé. Vous avez également, mais ça, c'est peut-être pas votre problème, passer outre tous les problèmes économiques liés à toute l'usine, à toute sa conception, etc. Enfin, vers la fin donc de votre exposé, toute la partie humaine a été oubliée. Je pense à la formation des hommes, à la mobilisation des hommes et à la préparation à la gestion, aux approvisionnements, etc., aux essais, etc. Merci.
Cher monsieur, j'aurais parlé avec plaisir de tous ces sujets, mais il est vrai qu'il m'aurait fallu 10 fois plus de temps. Je peux vous donner plus de détails si vous le souhaitez, mais la préparation du site ou les aspects purement humains n'étaient pas vraiment cernés par le sujet de ce soir, donc je me suis limitée au thème de ce soir.
Ici, ici, il faut passer de l'autre côté, s'il vous plaît.
Bonsoir.
Ah oui, bon, alors bonsoir. On n'est pas encore passé, allez-y.
J'ai compris que vous signez d'abord le contrat avant de procéder à la modélisation.
Oui, on ne commence jamais à travailler si on n'est pas payé.
Alors, entendu. Ça me paraît raisonnable, sauf que on ne peut établir un prix que si on sait réellement ce qu'on va construire et combien ça pèse et quels matériaux il va falloir mettre en œuvre et combien de temps ça va durer. Donc, oui. N'y a-t-il pas une contradiction? Et comment peut-on signer un contrat avec un prix sans savoir réellement ce que ça va coûter derrière et avoir un projet rentable?
Avant de signer un contrat, on a en général travaillé sur une proposition, un appel d'offres que nous a envoyé le client. Dans les appels d'offres des clients, c'est pas vide, hein. Il y a en général un certain nombre de documents, préliminaires certes, mais qui peuvent nous permettre de nous faire une idée de l'usine souhaitée par le client. D'autre part, nous avons des références dans le même domaine. Nous n'avons pas construit une raffinerie, mais des dizaines. Donc nous nous appuyons sur ces références internes à l'entreprise, sur des ratios, des statistiques, l'expérience que nous avons du client. Nous faisons des visites effectivement aussi du site pour bien anticiper l'environnement du pays et du chantier pour établir un prix. Mais c'est vrai qu'il est rare que nous nous lancions dans une modélisation au stade proposition. Je reviens à la question de monsieur tout à l'heure. Le choix du site ne dépend pas de nous. Hein. C'est toujours le client qui est propriétaire du site. Une venue d'eau en compte? Ah oui, mais on essaye d'éviter de l'anticiper au départ. Évidemment, lorsqu'il ça arrive hein, qu'il y ait des chantiers avec de l'eau. C'était pas vraiment dans le sujet, monsieur. Enfin, du moins, le pensais-je.
Bon. Bien. On peut passer de l'autre côté.
Oui.
Allez-y.
Oui, moi, j'ai trouvé votre conférence très intéressante. Merci. Je ne mettrai pas... une différente énumération sur des critiques qui me paraissent stériles.
Je vous remercie, monsieur.
Je voudrais que vous reveniez sur la conception des logiciels. Je suppose que chaque usine que vous allez construire nécessite la création de logiciels spécifiques.
Non. Les logiciels que nous utilisons sont de préférence des logiciels du commerce. Nous n'avons pas vocation à développer des outils. Nous en développons, mais les petits, hein. Les logiciels de 3D que nous utilisons couramment sont des logiciels utilisés par nos concurrents. On peut parler des plus connus, CPDS, d'Intergraph, CPDMS. Ce sont ces outils-là que nous adaptons peut-être à notre besoin, mais nous n'avons pas pour vocation de développer des outils.
Ça ne demande pas à chaque fois la conception spécifique d'un logiciel, alors.
Non, non, ah bon. Non. Sinon, on serait une SS2I, mais pas un ingénieur.
C'est plus rentable. Merci.
Oui, monsieur.
La question était identique. C'était le problème de savoir les logiciels, alors. J'ai eu la réponse.
Bon. Ah, pardon, je n'avais pas vu.
Pardon, j'ai trouvé votre exposé très captivant. Et je voulais savoir, et on ne voit pas le temps passer, vraiment. Et je voulais savoir, compte tenu du nombre d'intervenants, de la quantité importante des opérations et du temps relativement long, 32 à 34 mois, il y a bien quand même une personne ou un groupe de personnes qui s'occupe de l'ordonnancement de tous ces travaux-là.
Oui, bien sûr, c'est le rôle de l'équipe de projet.
Qui sont-ils?
C'est le directeur de projet, d'abord, qui est mandaté par le groupe et sa direction générale pour réaliser le projet d'un bout à l'autre. Il est donc redevable du résultat du projet. Et il s'entoure d'une équipe qui va travailler avec lui. Il y a aussi, sur tous les projets, un directeur de la construction. qui démarre donc à Paris et qui passe ensuite sur le chantier, qui a lui la responsabilité de mener à bien avec ses équipes la réalisation sur le chantier. C'est une équipe dédiée, évidemment, qui a toute la responsabilité du résultat.
On va prendre une dernière question.
Question. Est-ce que vous intégrez les normes parasismiques dans le projet ?
Bien sûr. Suivant différents codes, donc suivant qu'on travaille en France ou dans un pays où il faut appliquer le règlement américain, bon, ce sera différent. Mais bien sûr.
Bon, j'avais dit dernière question, mais il y en a encore une dernière ici. Allez. Non, c'est plus bas.
Oui, j'ai beaucoup aimé votre exposé. Je voulais simplement savoir quels sont le nom des intervenants qui s'occupent de ce qu'on appelle, la détection de d'incohérences, par exemple, est-ce que vous avez une cellule synthèse? Quel est le nom également,
c'est le rôle du bureau d'études qui réalise et qui se vérifie, qui doit rendre une copie sans faute, évidemment, sans faute sur les plans, pour que le chantier puisse construire.
D'accord. Et également, je voulais savoir qu'est-ce que l'informatique a apporté dans le domaine de tout ce qui est on a vu, au niveau calcul, l'informatique a apporté énormément de choses. Est-ce que les projets maintenant seraient plus rapides avec l'informatique, ou alors le temps que l'on gagne avec l'informatique, on va le perdre dans d'autres domaines, par exemple, quand on veut... est-ce que les projets sont de plus en plus longs? Donc on se demande, est-ce que vous pouvez un petit peu nous donner votre sentiment
non,
là-dessus?
Les projets ne sont pas de plus en plus longs, mais ils sont toujours aussi courts, mais de plus en plus gros. Donc dans un même temps, on fait des choses plus grosses. Donc dans ce sens, les outils nous servent. Ils ne nous font pas gagner forcément du temps. Ils nous permettent de travailler avec des ressources éloignées, par exemple. C'est très intéressant pour nous de pouvoir nous appuyer sur des ressources en Inde et donc d'aligner plus de monde que nous ne pourrions le faire tout seul. Ça, c'est un des avantages. L'autre avantage, c'est que l'informatique, le modèle commun, d'où on sort des plans, d'où on sort des listes de matériel, permet d'avoir une cohérence tout au long du processus. La formation qui est entrée par le bureau d'études est la même sur le chantier, puisqu'elle sort de la même base de données. Donc on évite des ressaisies, des recopies de choses qui seraient source d'erreurs. Donc c'est un avantage en termes de qualité. Et si la qualité des documents est bonne, sur chantier, il n'y aura pas de reprise. Et ça, économiquement, c'est très très intéressant. C'est le principal avantage. Mais ça ne coûte pas moins cher qu'avant grâce à l'informatique.
Bien. Écoutez, Anne Pouliquen, nous vous remercions. Alors, demain vendredi, le 12, méga usine, méga défi, l'usine pétrochimique par Marc Duval. Bonsoir.